Merci, je suis assez ému parce que tu viens de dire que j'ai effectivement écrit sur le site où je fais part du travail que je fais régulièrement. Je suis ému parce que je suis aussi ému d'être ici parce que je suis dans une position de tâche. Je fais tâche parce que je suis de culture christianiste, de tradition christianiste, catholique, et je voudrais essayer aujourd'hui de vous transmettre, à la suite de ce que vient, du prélude que vient de jouer Alain, c'est une fugue en direction du réel, justement, qui a été la mienne, finalement, alors évidemment sans parler de mon histoire, parce que en tant qu'analyste, on ne parle pas de son histoire comme ça, et vous savez que l'importance de l'écoute d'un psychanalyste, c'est justement de ne pas être pris par l'histoire, mais de savoir un peu à quelle place il est mis dans le transfert à partir de ce qui lui est adressé. Donc tout est là, et dans cette perspective-là, j'insiste bien de tâche, qui n'est pas la tâche originelle, parce que si la tâche originelle est effectivement, comme l'a rappelé Alain, le nœud autour duquel tourne le christianisme, il y a effectivement quelque chose qui précède ce mot. Vous savez que le mot chrétien apparaît à Antioche vers les années 60-70. Il y a quelque chose qui, dans les mêmes années, est présent, se met en place, et qui est la question des évangiles, à entendre comme une nouvelle pour les bons, et non pas comme une bonne nouvelle. Ce qui est déjà autre chose. Et c'est ce que je voudrais essayer donc de vous transmettre. Alors, avant de me lancer comme ça, surtout que le temps est compté, je voudrais dire un mot sur, puisque je parle là en tant que psychanalyste, si je pourrais effectivement parler dans une autre perspective, mais c'est ça. Je donne la plus grande importance à ce qui est au-delà des mots, à ce qui est au-delà de l'effet de signifier, que l'on appelle habituellement le signifiant. C'est-à-dire que je prends tout à fait en compte, dans ma pratique, donc ici aussi, dans ce que j'ai à vous dire, le fait que le signifiant est quelque chose qui s'entend, et que le signifié est quelque chose qui se lit à partir de ce qui s'entend. Et qu'entre les deux, c'est la découverte, il y a longtemps, des stoïciens, entre le signans et le signatum. C'est aussi ce qu'a repris Augustin, je n'aurai pas le temps de dire grand-chose sur Augustin aujourd'hui, de Saussure après, à ceci près que l'arbitraire de Saussure qui sépare les deux, ou qui joint les deux, est encore une façon de poser la question du discours du maître. Et qu'il faudra attendre le cercle de Prague, dont nous connaissons quelqu'un, qui est Jacobson, pour qu'il y ait une radicale différence sur laquelle va insister Lacan entre le signifiant et le signifié. Je dois dire que souvent les psychanalystes ne la respectent pas du tout. C'est quand ils parlent de signifiant, ils parlent en fait de l'effet de signifier. Donc vous voyez qu'on part dans un monde qui n'est plus celui de savoir s'il y a de la culpabilité ou pas. On n'est plus dans le sens, on est dans autre chose. Alors je suis un peu favorisé dans cet aspect puisque je suis chanteur lyrique amateur, donc j'attribue une grande importance à la dimension du son, donc à quelque chose qui dépasse le sens. On a bien sûr besoin du sens, mais toute la question est celle de ce qui peut s'entendre dans le fait que, au-delà du tout, il y a un dire qu'on dise, je cite Lacan, reste oublié, derrière ce qui se dit, dans ce qui s'entend. Donc c'est un peu ça que je voudrais essayer de vous dire. Et du coup, vous allez voir que la question du clivage, des articulations entre judaïsme et christianisme est tout à fait, non pas secondaire, mais est tout à fait possible, il est tout à fait possible de parler ensemble de quelque chose qui nous unit, en fait, à condition que cette union respecte effectivement le point de départ de chacun. Donc, je pars de l'idée relativement importante, subversive, de la découverte de Freud, on pourrait dire de l'athéisme de Freud, qui est le suivant. L'être parlant, et c'est pas du tout la question de l'être, comme l'a rappelé Alain, l'être parlant, quand on parle d'être, évidemment, le fait qu'on ne mette pas être parlant, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est censuré. L'être parlant ne sait pas les pensées qui le dirigent. C'est ça la découverte de la conscience. Ne sait pas les... Autrement dit, dès que l'on sort des pensées, qu'on donne du sens et qu'on parle avec des pensées, on est dans ce qu'on appelle une élaboration secondaire, c'est-à-dire que c'est la pensée qui nous dirige, et on est donc à distance de ce que l'on est du côté d'un certain rapport à ce qui nous est le plus proche, à ce qui touche, à ce que l'on appelle le médiaire de la vérité. Donc je suis assez radical là pour parler, que non plus j'ai pas beaucoup de temps sur cette question-là. Donc l'être parlant ne sait pas les pensées, Freud donne le terme, c'est dans la science des rêves, Gedanken, ne sait pas les pensées qui le guident. Donc à partir de là, tout est ouvert, bien sûr, ça change tout, puisque quand on sait les pensées qui nous guident, on limite l'orientation dans une perspective. Donc à partir de là, effectivement, on sort du signatum des stoïciens, on sort du signifié des linguistes, et on se dirige vers le fait que ce n'est plus nous qui dirigeons, que la loi n'est plus révélée, mais que la loi se révèle comme ce qui peut, à un moment ou à un autre, dans la rencontre de certains signifiants qui se télescopent notamment sur la question du mot écrit, du mot écrit, c'est-à-dire de l'écrit, et non pas de l'écriture, c'est aussi des choses différentes, nommées par Lacan. Donc dans cette question du mot d'esprit, quelque chose de nouveau, une nouvelle pour les bons peut apparaître. Alors, ce que Freud, encore un mot parce que c'est important, ce que Freud va dire à la suite de ça, et si on le lit, c'est ce qu'on peut trouver, on peut trouver une chose, c'est toujours la même chose, on peut en rester au signifié. Ce que l'on peut trouver, c'est que ces fameuses pensées sont telles qu'il n'y a pas de pensée qui ne fonctionne comme la parole. C'est très important, c'est une bibliothèque ce que je suis en train d'expliquer. S'il n'y a pas de pensée qui ne fonctionne comme la parole, ça signifie que les pensées nous introduisent au champ du langage. Et quand on accepte de se laisser introduire dans le champ du langage, à ce moment-là, effectivement, on débouche sur autre chose, qui est le fait que du savoir peut s'élaborer, et non pas le savoir est élaboré déjà. Alors, c'est à partir de ça, je pourrais développer d'autres choses, mais c'est à partir de ça que je voudrais vous dire quelque chose sur... vous parler un peu de mon expérience par rapport à ça quand j'étais au séminaire, hein, on a parlé de maîtrise, un séminaire de l'ensemble. Quand j'étais au séminaire, effectivement, j'ai lu les évangiles, bien sûr. Et donc je me situe, par rapport à ce qu'a dit Alain, c'est important, je me situe donc avant les dogmes, je me situe dans une perspective qui est celle des évangiles. Donc, quand j'étais au séminaire, on apprenait les évangiles, évidemment, on lisait, etc., c'était commenté, etc. Et je voudrais m'arrêter sur un point qui m'a toujours posé question. J'ai été très content de constater que c'est ce même point qu'en 1990, 87 ou 88, tomba François Lacan, le frère de Lacan, qui est bénédictin à l'abbaye d'Hautecombe, a rendu hommage à son frère par le même texte. Ce texte, vous allez le trouver dans Luc, chapitre 10, et notamment, j'ai noté dans le programme 10-42, parce que le verset 42 est tout à fait important. Et je crois que c'est important parce que dans tout ce qu'a dit Alain, là, j'ajouterai autre chose, c'est la dimension de la jouissance. Bien sûr, pas le plaisir, puisqu'on peut dire que le plaisir est une façon très limitée de parler de la jouissance. La question de la jouissance qui est liée au fait de parler. Dans une interview à France Culture dans les années 70-72, Lacan pouvait dire que si la science et le développement de la science depuis 400 ans a des effets asphyxiants, et que c'est pour ça que la psychanalyse était née, parce qu'il fallait un poumon artificiel. C'est parce que justement, dans le fait de parler, il y avait quelque chose de la jouissance qui était gagnée. Vous savez, c'est le nous gaining, pour ceux qui connaissent, c'est le plus de jouir. Il y a quelque chose qui était gagné et qui pouvait permettre que continue l'histoire de chacun. Je crois que c'est ça qui se passe dans le transfert. Alors, de tout ce qui est raconté, c'est mon expérience, de tout ce qui est dit. Et puis si on est ici, c'est aussi pour ça, après tout. Le problème, c'est que tout ça, c'est effectivement quelque chose qui ne va pas de soi. Et l'hypothèse qui me travaille beaucoup, c'est à partir toujours pareil de quelques petites notes comme ça, petites notes un peu dissonantes de Lacan, mais pas si dissonantes que ça, quand il dit que Aristote n'a pas pu dire ça parce qu'il n'a pas pu être travaillé par la jouissance de la révélation chrétienne. Donc, pour Lacan, qui, vous savez, venait de ce bord-là, il y a quelque chose d'important. Et il estime, lui, que le christianisme résulte d'une interdiction portée sur la jouissance. Donc, je crois que c'est des choses tout à fait importantes, pour moi, qui m'intéresse beaucoup, étant donné ce que je vous ai dit tout à l'heure. Alors, il y a donc un texte, et je le prends comme si je l'entendais. Ça, c'est une question aussi de l'écrit, et de la loi écrite. On peut tout à fait lire quelque chose et l'entendre comme à l'opéra. Je ne vais même pas dire comme au théâtre, mais comme à l'opéra. Eh bien, ça pose une question tout à fait intéressante qui est celle de la jouissance. Et la jouissance, je crois qu'effectivement, c'est une question. Ça n'est pas une réponse. C'est une question que Lacan nous transmet de la façon suivante. La jouissance qu'il faut, je vous rappelle, c'est un séminaire encore, 13 février 1973, pour ceux qui veulent aller voir ça, ça s'appelle Savoir la vérité, je crois. La jouissance qu'il faut est à traduire. Je n'aurai pas le temps de développer cette dimension de la traduction, mais je sais que c'est important pour ceux qui traduisent la tradition juive et pour la tradition chrétienne, c'est même un nœud de conflit, est à traduire justement par celle qu'il ne faut pas. La jouissance qu'il faut est à traduire justement par celle qu'il ne faut pas. Je pense que tout est là. C'est-à-dire que la jouissance qu'il faut est à jamais refoulée, et pour bien marquer qu'elle n'a jamais refoulé, Lacan écrit en un seul mot, la langue, c'est la jouissance de la langue, après, quand on commencera à parler, c'est-à-dire quand le refoulement se mettra à fonctionner, refoulement, c'est une des conditions d'accéder au fait de parler. Après, il y a quelque chose qui va donc à jamais être refoulé, mais qui est toujours présent. Et les artistes qui sont là savent bien que c'est toujours autour de cette question-là qu'on se remet à revenir à certaines créations artistiques. Alors, j'en reviens au texte dont il s'agit. Je vais le résumer rapidement. Ce qui est dans l'air à ce moment-là, si on prend Luc, c'est la question du prochain. La question qui est posée à Jésus, c'est qu'est-ce que c'est que le prochain? Vous savez, pour ceux qui connaissent un peu les dimensions de l'analyse, l'importance de ce mot, la façon dont Lacan est revenu là-dessus, puis on rappelle le prochain, etc., je n'insiste pas. La façon dont Freud l'aborde en 1952 à propos du Nibelmensch, enfin il y a beaucoup de choses qui sont faites. Et il y a la parabole du bon samaritain qui le développe. Je pense que vous connaissez cette parabole. Donc je veux arriver au point vraiment important qui, quand j'étais donc encore tout à fait empreint par une doctrine, un savoir, à Ben, c'était le savoir de la médecine, mais c'est du même ordre. Après, le savoir psychologique, mais c'est du même ordre. C'est toujours du savoir, c'est pas l'être parlant ne sait pas les pensées qu'il dirige. Non, pas du tout, c'était pas du tout ça à ce moment-là. Ça, c'était complètement mitoté. Il fallait qu'un jour il se passe quelque chose. Alors, donc, dans cette perspective-là, il y a quelque chose qui me posait, mais enfin, si le prochain, c'est comme dans la parabole, là, vous savez, du bon samaritain qui vient sauver celui qui est blessé, alors que le légiste et puis le prêtre n'ont prêté aucune attention. Et qu'est-ce que c'est qu'est-ce que Luc vient ensuite amener comme suite, à savoir que Jésus est accueilli, demande à une femme, elle demande à Jésus d'entrer chez elle, et puis qu'il se passe un truc. Ou alors moi je n'y comprenais plus rien du tout. Il se passe la chose suivante. Anne, évidemment, bienvenue, et puis elle s'affaire pour absolument le combler de tout, et puis elle découvre quelque chose qui fait tâche. Alors voilà la tâche, c'est Marie qui est au pied de Jésus. Et puis elle ne dit rien, et ça devient insupportable pour Anne. À tel point qu'elle demande, d'une certaine façon, dans le prochain, oui, elle lui demande pas comme ça, mais elle lui dit, dis à cette femme-là qui ne m'aide pas de m'aider, je paraphrase, mais je crois que j'en donne à peu près les éléments. Dis-lui de m'aider, parce que c'est pas possible que ça continue comme ça. Et alors là, c'est là que je ne comprenais plus rien. C'est là que l'homme ne sait pas les pensées qui dirigent à ce moment-là Jésus, qui auparavant a défini le prochain d'une certaine façon, lui dit quelque chose qui n'est pas du tout dans la logique, qui est une rupture totale. Et il lui dit ceci, alors je vais le citer évidemment en grec, je ne connais pas, le texte araméen, je pense que ça peut être écrit en araméen, mais je crois que la traduction, elle suffit en elle-même. À ceci près, les traductions qu'on habite habituellement, que ce soit la Bible de Jérusalem ou la Tobe qui vient de la Vulgate, sont à côté. Évidemment, c'est à côté. Pourquoi? Parce qu'on oppose le péripola en grec, c'est-à-dire que Anne s'occupe de beaucoup de choses, un péripola. Et à côté de ça, il y aurait le fait que, eh ben, il y en a une, Marie, qui, elle, pour elle, il n'y a qu'une chose qui compte. C'est le énos en grec. Estin, créa, énos. Ça, c'est la traduction. Oui, la traduction, c'est une censure qui s'exerce dans la traduction, en fait, au niveau des termes. C'est ça que je veux faire remarquer. Alors que, en fait, si on prend la mesure de ce qui est en jeu là, ce qui se dit là, le dire qui est en jeu, là, et c'est après, je dirais, après un travail analytique, et après cette importance du signifiant, et le signifiant, on ne peut pas le définir, on ne peut pas définir le signifiant. Le signifiant représente le sujet comme le signifiant, alors, on ne peut pas le définir, par définition. On peut donner une formule, on ne peut pas le définir. Donc le signifiant, dans cette perspective-là, c'est notamment ce qu'évoquait tout à l'heure, c'est rappelé Michel, c'est la dimension du silence. C'est ce qui sort, c'est le réel, comme le dit Lacan, que du symbolique surgisse le réel. C'est comme ça qu'il interprète les premiers mots de la Genèse. Eh bien, on pourrait dire que c'est pas du tout qu'elle soit là, ne rien dire, c'est qu'elle entend quelque chose. Elle entend, elle est dans la position de se jouir, J'. Elle oublie quelque chose. Elle dit oui, se disant, ce oui de l'abbé Young, je crois qu'il faut absolument le sortir d'une traduction signifiée. C'est quelque chose qui est un oui au réel de la jouissance. Elle dit oui au fait que, ah, c'est là le clou, au fait qu'elle aurait pu entendre un certain surmoi qui lui dit « jouis ». Autrement dit, on pourrait dire que dans ce texte qui doit dater des années 60-70, est déjà écrit, je suis à peu près sûr que Lacan, c'est son frère qui sort ce texte-là, 7 ans après, c'est pas par hasard, Lacan l'avait en tête, ils en ont parlé ensemble. Ce que je veux dire, c'est qu'à ce moment-là, on a, dans un texte, si on le lit, je dirais plus que de façon laïque, mais de façon athée, au sens de athée, hein, au sens de l'objet A, on a la perspective de ce qui est en jeu dans le transfert, c'est-à-dire le fait que ce qui importe, c'est la façon dont le récepteur interprète le texte pour qu'il en donne d'une certaine façon qui est l'auteur.